tout ce qui fait bouger la ville. Culture, ciné, loisirs, sport, développement durable, associations, études, métiers. Rendez-vous du lundi au vendredi à midi sur RJR.
RJR Midi avec le Crous de Reims.
RJR, partenaire du Festival des Moissons Rock. Au programme Yodelis, Dubbing, Marcel et son orchestre, Ludwig von Artung-Artig, La Petite Fumée, Morgan J, Volodia, Madame et bien d'autres. Le Festival des Moissons Rock, du 28 au 31 mai à Juvigny, près de Châlons en Champagne. Infos et réservations, point de vente habituel et moissonsrock.org.
Les artistes régionaux ont leur radio.
RJR,
bah cela.
Et je me demande si je trouverai de l'or ou des cendres.
Léo Blomeuf.
Comment lui faire comprendre tout en délicatesse.
Ian Caulfield.
Je m'éclatais faire bonsaï pour épater les falcons. J'ai voulu commettre mes failles.
Les artistes régionaux ont leur radio.
RJR.
Radio Jeune Reims.
Éco Jeune Reims avec Joseph.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle émission qui va parler d'écologie. Je suis Joseph Jacquemin, je travaille en tant qu'ambassadeur de transition écologique au Grand Reims et nous allons parler aujourd'hui de déco-anxiété avec
Antoine,
Justine, ambassadrice en santé mentale
et Elisa, ambassadrice en santé mentale également.
Alors, avant de commencer, je vais vous donner une longue explication de ce qu'est l'éco-anxiété. Alors tout d'abord, le terme éco-anxiété est apparu pour la première fois dans les travaux de Véronique Lapège en 1997. Mais il a été popularisé en fin 2018 quand Greta Thunberg a évoqué son éco-anxiété en public. Alors, la définition d'éco-anxiété, l'éco-anxiété est l'expression d'émotions fortes face au changement climatique. Les émotions ressenties par les personnes éco-anxieuses sont l'angoisse ou la peur d'une fin du monde et donc de la mort qui pourrait être provoquée par des événements climatiques extrêmes. Mais aussi de la frustration, de la colère vis-à-vis de la sphère politique, sociale ou parfois même envers soi-même, donc de la culpabilité, qui n'agirait pas assez pour lutter contre le phénomène. Selon le CESE, Conseil économique, social et environnemental, 8 Français sur 10 se disent inquiets face au changement climatique. Pourtant, il n'est pas la préoccupation principale des Français qui, selon les chiffres de l'Ipsos de février 2025, se préoccupent davantage de la sécurité et de l'économie. L'éco-anxiété, qui est à 32%, est tout de même citée en troisième frein au bien-être, notamment chez les jeunes, derrière le manque de temps et d'argent. Auprès des seniors de 70 ans et plus, c'est leur première préoccupation, 39%, devant leur problème de santé, 35%. C'est également le cas dans la tranche d'âge des 18-35 ans, pour qui le réchauffement climatique est la thématique scientifique qui les intéresse le plus. 4 jeunes sur 5 se disent intéressés par le sujet. Mais c'est le principal sujet de préoccupation chez les jeunes, avec 44% de réponses qui indiquent des sentiments d'angoisse, de peur, de colère ou d'impuissance face au changement climatique. Chez les jeunes de 16 à 25 ans de différents pays du monde, 35% d'entre eux disent que le changement climatique a un impact négatif sur leur quotidien et leur morale, 74% d'entre eux se déclarent pessimistes vis-à-vis de l'avenir et 67% d'entre eux estiment que le gouvernement ne prenne pas assez d'initiatives pour lutter contre le réchauffement climatique. En ce qui concerne le Grand Reims, en 2024, un baromètre de la sensibilité face au changement climatique a posé la question suivante aux habitants du territoire, 1125 répondant au sondage. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de crainte quant à leur avenir, de leur santé et celle de leurs proches au fait des conséquences du changement climatique? La réponse a été de 8 sur 10 en moyenne. Maintenant, je vais poser des questions à nos invités, à nos intervenants. Quel est votre rapport avec l'éco-anxiété et comment travaillez-vous là-dessus?
Dans notre rôle d'ambassadeur en santé mentale, nous, on travaille sur la thématique de l'éco-anxiété avec les jeunes de 16 à 25 ans. L'idée, c'est d'ouvrir la discussion autour de leurs préoccupations liées à l'environnement. Mais sans les angoisser, bien sûr, on organise des activités ludiques pour qu'ils puissent en parler librement, exprimer ce qu'ils ressentent et échanger entre eux. On essaye de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls à avoir ces inquiétudes et qu'il y a des solutions, des actions concrètes qu'on peut mettre tous en place. C'est aussi un moyen à les encourager à ne pas laisser la peur les paralyser, mais plutôt à agir à leur échelle pour un avenir plus positif. Par exemple, nos interventions durent environ 1h30 avec des activités ludiques qu'on fait. Par exemple, aussi sur la thématique de l'éco-anxiété, on a fait des
causes et solutions, du coup, on parlait des causes de l'éco-anxiété et justement les solutions qu'on pouvait avoir à notre échelle. Et pour information, du coup, notre mission s'inscrit aussi dans le cadre du service civique, qui est une association, du coup, d'unicité. Et du coup, notre mission, c'est de sensibiliser et de stigmatiser à la santé mentale, mais aussi d'orienter, justement, vers les différentes structures de Reims qui sont méconnues au public.
Moi, alors, ben, je suis pas dans une association particulière. Mes adaptations, je les ai fait au niveau de ma vie personnelle. En fait, comme l'éco-anxiété, il me semble que c'est surtout un sentiment d'impuissance, une anticipation de ce qui peut arriver. Moi, ma façon de m'adapter, c'est une action au quotidien. Et au niveau associatif, j'ai donné. Là, je suis un petit peu en pause. Je pense reprendre également. Alors, association, politique, pas politique, voilà, je suis en tergiversation là-dessus, mais c'est l'idée.
Et j'ai aussi une autre question à vous poser là-dessus. Est-ce que vous êtes vous-même éco-anxieux ?
Alors oui, bien sûr, on peut ressentir de l'éco-anxiété. Je ne sais pas si pour toi, Justine, c'est pareil.
Oui, c'est pareil.
Donc, surtout quand on prend conscience aussi de l'ampleur des problèmes environnementaux, parce que parfois, on a l'impression que les choses vont super mal et que nos actions individuelles ne suffisent pas. Mais ce qui aide vraiment, c'est surtout de voir qu'il y a aussi du positif, donc des solutions qui existent, des gens qui se mobilisent. Et qu'on peut chacun aussi contribuer à notre échelle. Donc en se concentrant sur ce qu'on peut faire plutôt que sur ce qui nous dépasse, on peut aussi transformer l'inquiétude en engagement, pour moi.
Oui, pareil, il me semble que tu avais demandé, en tout cas j'avais lu ça sur une échelle de 1 à 10, l'éco-anxiété de la personne, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Moi personnellement, je me mettrais entre 8 et 9 aujourd'hui. On va pas dire 10 sur 10, parce que on va dire 10 sur 10, ce serait incapacitant, ce serait vraiment on est dans son lit quoi. Mais oui, elle est très forte cette éco-anxiété. Maintenant, elle baisse un petit peu. Avec l'action, je dirais.
Pour répondre à tes questions, il est toujours d'actualité, pour ce qui concerne Reims, en tout cas.
Okay.
Alors, est-ce que vous considérez que les psychologues et les psychiatres peuvent aider contre l'éco-anxiété ?
Alors, oui, clairement, les psychologues et les psychiatres peuvent apporter un vrai soutien, du coup, face à l'éco-anxiété. Il y a des outils adaptés, déjà, comme, par exemple, la thérapie cognitivo-comportementale, qui aide à repérer, justement, et modifier les émotions négatives, les pensées négatives, pour mieux gérer l'anxiété. C'est une approche qui a déjà fait ses preuves, que ce soit sur les troubles anxieux et les troubles dépressifs. Et donc, elle peut aussi être efficace pour les angoisses liées aux enjeux écologiques. Et je pense aussi que les professionnels peuvent accompagner les personnes en leur donnant aussi des stratégies pour mieux gérer leurs émotions également et développer aussi une certaine résilience. Donc, l'idée, c'est vraiment pas d'éteindre l'inquiétude complètement, parce qu'en soi, elle est légitime. Mais plutôt d'apprendre à vivre avec et transformer justement cette anxiété en quelque chose de plus constructif, on va dire.
Oui, moi, ce que tu dis sur l'inquiétude, elle est légitime. Ça me parle parce que, quelque part, on pourrait dire que l'éco-anxiété n'est pas forcément pathologique. Elle l'est si elle est excessive. Mais sinon, en fait, ça veut dire quoi être pathologique ? C'est soit c'est excessif, mais soit aussi c'est pas compréhensible. Ça vient de nulle part. Or, l'éco-anxiété, ça vient de quelque part. Donc, en fait, on est assez tous légitimes à être éco-anxieux, me semble-t-il, que c'est normal étant donné les circonstances, et que là-dessus, on n'est pas tous, dans une forme de pathologie, mais plutôt dans une forme d'adaptation normale à notre environnement, quoi. Et j'irais même plus loin, c'est-à-dire que dans la mesure où on fait partie de la nature, c'est normal que si la nature souffre, on souffre avec, quoi. Maintenant, voilà, c'est quand ça devient excessif, qu'on n'arrive plus à gérer comme... moi, c'est comme ça que je le vis. Quand on n'arrive plus à gérer, à ce moment-là, oui, effectivement, il faut avoir du soutien, quoi.
Mais justement, qu'est-ce qui soulage l'éco-anxiété, à part les psychiatres et les psychologues, selon vous ?
Pour soulager l'éco-anxiété, sans cacher, toutes les actions concrètes peuvent vraiment aider, que ce soit par le recyclage, par une consommation plus responsable, ou même en rejoignant tes initiatives écologiques. Cela donne un sentiment d'utilité et de contrôle, ce qui peut vraiment atténuer l'angoisse. La pratique de la pleine conscience aussi, notamment à travers la méditation, est une bonne manière de mieux gérer ses émotions et de réduire le stress notamment. Ça permet de prendre du recul et d'éviter de se laisser submerger par l'inquiétude. Enfin, limiter l'exposition aux informations anxiogènes et s'entourer de personnes avec qui échanger sur ces sujets, que ce soit dans tes groupes de parole ou auprès de ses proches, peut vraiment faire une vraie différence.
Oui, l'idée de limiter l'accès aux informations, ça me semble bien important aussi, parce que en fait, c'est tellement facile d'avoir de l'information de partout aujourd'hui qu'on a tendance à vouloir l'obtenir, cette information, alors que des fois, il est important de s'aménager des temps de pause, et ça peut être même des semaines sans information, parce que ça peut faire du bien, et être plus lucide ensuite quand on reprend l'actualité, quand on s'y remet dedans. Et moi, il me semble que pour tout ce qui est comment j'agis là-dessus, en fait, j'ai l'impression que la plupart des personnes ne savent pas vraiment quoi faire entre, genre, je fais pipi sous la douche, c'est-à-dire le niveau 0,5, et je m'engage en politique pour les présidentielles, le niveau 12 sur 10, quoi. Et entre tous ces degrés-là, il y a plein de choses possibles, mais c'est pas forcément évident de les voir. C'est-à-dire s'engager dans une asso de vélo, c'est pas politique, mais c'est utile, ou essayer de gérer une AMAP, donc un circuit, vous savez, de nourriture locale, etc. Il y a plein de degrés possibles entre ce que je vais faire vraiment moi et ce que je vais faire collectivement, mais qui va me prendre énormément de temps. On peut faire des choses qui coûtent pas tellement de temps que ça, et quand même être satisfait et avoir parce que véritablement on fait quelque chose, quoi.
Dans le cadre de mon service civique, je vais souvent dans des collèges pour parler d'écologie à des enfants. Et à la fin, ils nous parlent souvent d'éco-anxiété, que parfois même à leur jeune âge, qui au collège, ils se sentent anxieux par rapport à l'avenir. Alors comment est-ce que vous pensez qu'il faudrait parler aux enfants du changement climatique pour ne pas non plus les traumatiser ?
Du coup, pour parler du changement climatique aux enfants, il faut utiliser des mots simples et leur expliquer les choses de manière rassurante, sans pour autant les effrayer. L'idée, c'est de leur montrer qu'il y a déjà des actions positives et des solutions qui existent pour qu'ils se sentent plus optimistes et pas accablés. Il est aussi important de les encourager à s'impliquer et à leur faire comprendre qu'ils ont eux aussi un rôle à jouer pour protéger la planète, même si c'est à leur échelle. Ça leur donne un sentiment de pouvoir et d'espoir pour l'avenir. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas cacher la vérité, parce que c'est important de dire ce qui se passe, mais également de leur dire aussi qu'il y a des actions concrètes qui se font.
Moi, je n'ai pas accès, j'ai pas un public enfant. La plupart des personnes avec qui je parle sont des élèves de terminale, donc 17-18 ans. Donc, ce n'est pas exactement pareil. Mais quand je leur parle d'écologie, d'éco-anxiété, parce que ça fait partie... la nature, ça fait partie de ce dont on parle, la technique aussi, la science, donc plein de sujets qui font qu'on revient vers ça. Moi, j'aime bien souvent leur parler d'un philosophe qui s'appelle Hegel et qui considérait que l'histoire était terminée avec la Révolution française. C'est-à-dire que la Révolution française, c'est la création de la liberté, c'est l'apparition de la liberté dans le monde. Et en gros, après, les autres, c'est du bonus. C'est-à-dire que on va continuer à vivre, mais ce sera pas historiquement important. Et c'est pas le seul un peu à avoir fait ça, parce que en 90, avec la chute du mur de Berlin, il y a eu un livre très important qui est sorti aussi pour nous dire la fin de l'histoire, le libéralisme va gagner, etc. Donc en fait, des historiens ou des philosophes qui ont prédit que, en gros, le plus important de l'histoire était arrivé, il y en a eu plein. Et moi, ce que je trouve un peu réconfortant, c'est qu'au moins, on donne tort à ça, parce que un événement historique majeur, à savoir le dérèglement climatique, est en train de se passer, et ça veut dire que notre génération, elle est historique. Alors le problème, c'est qu'on le veut pas forcément. On n'avait peut-être pas signé quand on est arrivé là pour avoir forcément une existence qui compte vraiment à l'échelle de l'histoire. Mais ce dont on est en train de se rendre compte, c'est que je peux pas vraiment vivre ma vie dans mon coin, parce que c'est un truc collectif, donc si je fais n'importe quoi d'un point de vue écologique de mon côté, c'est embêtant pour les autres. Donc en fait, je suis obligé de faire attention à quelque chose qui me dépasse. Mais le bon point, c'est qu'au moins on compte. On est une génération qui va compter. Enfin, j'espère en tout cas, évidemment.
Et aussi, est-ce que selon vous, la peur démobilise ou au contraire, est-ce qu'elle mobilise sur ce sujet ?
Alors, pour moi, la peur, ça va être un effet contradictoire, on va dire, parce que si elle est trop forte et mal gérée, justement, elle peut vraiment paralyser et démobiliser. Donc, en donnant l'impression, justement, qu'on est impuissant face à la situation. Par contre, si elle est bien encadrée, la peur, justement, peut aussi être un moteur puissant, puisqu'elle peut réveiller, du coup, la conscience et pousser à l'action. Donc, en incitant les gens à se mobiliser pour des causes importantes. Je pense que c'est aussi une question de dosage. Trop de peur, on se sent démuni, et un peu de peur bien orientée, ça peut booster l'engagement et faire la différence.
Moi, vis-à-vis de la peur, je suis assez critique, parce que, en fait, la peur bien dosée, je suis d'accord, c'est bien défendu comme ça. Enfin, moi, ce qui m'ennuie avec la peur, c'est que... En fait, ça vient légitimer un peu. C'est-à-dire que, on passe notre temps à avoir des chaînes d'information qui peuvent nous faire peur. Et quelque part, on pourrait légitimer cette peur qui parfois est instrumentalisée, qui est parfois utilisée contre nous, en disant, c'est vrai, on peut en faire un moteur d'énergie. Et, sans doute, moi je suis pas psy, donc peut-être que ça marche. Mais l'alternative que j'essaye, moi, d'avoir au quotidien, qui fait peut-être un peu peur, mais c'est la colère. Ou au moins l'indignation. C'est-à-dire que, il y a la peur, sans doute, mais moi, ce que je préfère vraiment, c'est la colère, c'est l'indignation, c'est ce sentiment d'injustice, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on laisse faire ça, et donc ça crée de l'énergie. Et peut-être que la colère est engendrée par un fond de peur, à la base. Mais en tout cas, voilà, je pense que... Moi, ce qui m'ennuie avec la peur, c'est de la légitimer. De dire, finalement, c'était peut-être bien d'avoir peur, parce que, etc. Et je sais pas, moi, si je serais capable, en fait, de pardonner toute cette peur à l'avenir. Même si l'avenir se passe bien, je sais pas si je serais capable de pardonner, d'avoir eu aussi peur à cause enfin, autant peur à cause de toutes les choses que je gère pas autour de moi, quoi, et que les autres font.
Moi, si je peux me permettre, par exemple, t'as dit un truc super intéressant là tout de suite. T'as dit que ta colère, justement, elle pouvait aussi avoir un fond de peur.
Oui, voilà. Et ça, je sais pas, peut-être.
Et ça, je trouve que c'est intéressant à discuter, on va dire, parce que pour moi, on peut pas être en colère sur un sujet si le sujet nous fait pas peur un petit peu en soi.
Oui, peut-être. Alors moi, le fond de la colère, je le verrais plutôt du côté de l'injustice. Alors, il y a des liens entre la peur et l'injustice, mais l'injustice, vous savez, quand on voit quelque chose qui vraiment devrait pas être, quoi. L'impression que ça ne devrait pas être comme ça. Ça, je sais pas s'il y a de la peur. En tout cas, il y a l'idée qu'on a violé, on a dépassé une norme, quoi. Il y a une norme qui a été dépassée, et ça, on n'est pas prêt à l'accepter.
Pour continuer sur le sujet de la peur, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on continue à sensibiliser, quitte à provoquer de la peur ?
Je pense qu'il faut continuer, oui, à sensibiliser sur l'environnement, ce qui est crucial. Mais il est important de ne pas trop se focaliser sur la peur, car cela peut avoir l'effet inverse et démobiliser les gens.
Donc oui, comme on a dit juste avant, la peur peut certes pousser à l'action, mais si elle est accompagnée de solutions concrètes, on va dire, et d'un message d'espoir aussi. Parce que justement, si on laisse trop de place à la peur, ça peut mener à un sentiment de résignation et à l'inactivité également. Donc les messages doivent être équilibrés pour inciter à agir sans sombrer dans la panique.
Et c'est en montrant que tes changements sont possibles que l'on peut réellement motiver les gens à se mobiliser.
Et puis il me semble ta question, c'est est-ce qu'il faut continuer à mobiliser ? Je dirais, en tout cas, il faut continuer à informer. Parce que mobiliser, il y a un peu le sous-entendu que on va pousser les gens à faire certaines actions, à les pousser vers ça c'est bien, ça c'est mal. Et ça peut des fois avoir l'effet inverse chez certaines personnes qui ont l'esprit de contradiction, on va dire, ou qui sont pas prêtes à entendre ce genre de choses. Mais en tout cas, il faut continuer à informer, je pense. Et c'est vrai, moi je suis pas peut-être assez calé, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une information sur l'état de notre planète qui soit à la fois claire, compréhensible, bien instruite, mais aussi qui ait un peu de positif, quoi. C'est-à-dire un peu un journal des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Quelque chose qui soit assez factuel. Bon, ça doit exister, hein, mais je pense que ça c'est intéressant pour tout le monde, au-delà des discours qui sont militants et avec lesquels on peut être d'accord ou pas d'accord, quoi.
Après, moi, je pense aussi que on a aussi l'accès à l'information qui est quand même beaucoup plus facile dans notre génération, on va dire. Et peut-être que justement, les personnes ne sont pas prêtes justement à entendre parler de ce sujet parce qu'ils ne veulent pas se préoccuper de quelque chose qu'ils ne peuvent pas forcément gérer.
Ouais, après, l'information à laquelle on a accès, je pense, c'est une action fouillie, en fait. C'est une action qui vient de partout, plein de sources différentes. Et l'activité d'un journaliste, c'est aussi de pouvoir se baigner dans ces informations et de les ordonner. Et on a besoin de journalistes pour ça. C'est-à-dire des personnes vraiment qui arrivent à faire quelque chose, qui arrivent à faire émerger une structure de tout ce chaos d'informations. Parce que là, moi, si je passe, après l'émission, une heure à m'informer, je peux obtenir des informations à la fois du Nicaragua, que de France et d'à 30 minutes de chez moi. Et comment je les organise? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je peux me laisser complètement submerger par cette masse d'informations que j'ai et ne pas avoir de vue d'ensemble, en fait. Donc, il me semble important, ouais, de promouvoir encore plus que maintenant des formats d'informations qui soient bien clairs, quoi.
J'ai donc une dernière question à vous poser. Est-ce que vous pensez que l'éco-anxiété et le climato-scepticisme sont liés ?
Alors, liés, c'est-à-dire, si je suis très anxieux, je vais peut-être avoir tendance à rentrer dans le déni. Ce serait ça,
oui,
l'idée.
C'est
ouais,
ça. Hein.
Si je suis très anxieux pour la planète, alors j'ai peut-être moins envie de regarder ce qui se passe. Et donc quoi ? Je regarde plus. Est-ce que ça veut dire que je suis climato-sceptique ? Il faudrait savoir ce que c'est que le climato-scepticisme. Et je pense qu'il y a différentes façons de le voir. Il y a peut-être une définition bien précise, mais je dirais entre climato-sceptique qui dit il n'y a pas de dérèglement climatique. Ça n'existe pas, c'est un complot, etc. Vraiment le niveau hardcore. Et celui qui dit juste ça existe peut-être, mais je m'en fiche. Est-ce qu'on est encore sur un climato-sceptique ? Celui qui juste s'en fiche, qui a envie d'être laissé tranquille, je sais pas si j'appellerais ça moi personnellement un climato-sceptique. Et je pense que l'éco-anxiété peut amener à ça, c'est-à-dire pas un climato-scepticisme de « ça n'existe pas », mais à un niveau bien inférieur de juste « j'ai envie d'être laissé tranquille, t'as peut-être raison, t'as peut-être tort, mais je veux pas trop en entendre parler, quoi ».
Moi je suis assez d'accord, je pense que le mot est un peu fort, on va dire, pour que ça aille directement, de l'éco-anxiété à justement climato-scepticisme. Donc je sais pas ce que t'en penses, Justine, mais mais moi je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a dit.
Je suis d'accord aussi avec ce que tout le monde a dit.
Après oui, voilà, je pense le climato-scepticisme, faut le remettre dans l'idée que, à mon avis, c'est une posture militante avant tout, quoi. C'est-à-dire que, enfin moi c'est vraiment que mon avis, mais les personnes qui sont climato-sceptiques, c'est-à-dire vraiment les personnes qui vous disent ça n'existe pas, ou c'est exagéré, ou même c'est n'importe quoi, ce sont des personnes qui ont des intérêts derrière à dire ça. C'est pas juste des personnes qui sont là pour se défendre et se protéger personnellement, je pense. La personne qui est juste éco-anxieuse, je vois pas quel intérêt elle aurait à s'engager aussi fortement dans le non, ça n'existe pas. Alors que si elle est anxieuse, c'est que par définition, elle n'a pas trop envie d'en entendre parler, quoi.
Donc ce serait plus au maximum, si on est éco-anxieux, plus du déni plutôt qu'autre chose.
Je pense par contre, ça peut faire rentrer dans le déni, ouais, l'éco-anxiété. Et là, pareil, je pense qu'il faudrait voir ce que ça veut dire. Est-ce qu'on n'a pas des degrés de déni? Parce qu'on disait là tout à l'heure, par exemple, moi personnellement, arrêter de m'informer pendant une semaine, je trouve ça bien. Et je sais qu'il y en a qui vont considérer que c'est trop, mais tu te fais dépasser par plein de choses, et puis après tu pourras plus rattraper, et après quand tu vas revenir, quand tu vas te réveiller, ça va tout changer. Moi déjà, bon, j'ai l'impression que non, parce que quand j'allume ma radio ou la télé ou internet le lundi, après avoir fait une semaine de pause, j'ai l'impression qu'ils disent exactement la même chose qu'il y a une semaine et demie, avec quelques infos en plus, mais ça reste dans les mêmes tendances. Non, et puis surtout, voilà, ne pas s'informer pendant une semaine, ça peut faire partie de ces façons d'être, non pas dans un déni passif, mais dans une sorte de déni actif, quoi. Genre, je sais pas si c'est compréhensible la distinction que je fais, mais déni actif, c'est-à-dire, il y a des moments de repos de mon cerveau. Il y a des moments de repos, c'est-à-dire, je vis ma vie comme dans les années 2000, ça va faire très vieux ce que je dis, mais je vis ma vie comme dans les années 2000, comme quand j'étais enfant ou quand j'étais ado, comme ça je me ressource un peu. Et après, hop, je remets ma casquette adulte quand je suis prêt, et là, j'ai une énergie qui est un peu meilleure.
Mais est-ce que ça serait pas plutôt justement une stratégie pour lutter contre l'éco-anxiété plutôt que du déni?
Oui, voilà, à ce moment-là, est-ce que c'est encore du déni ou est-ce que c'est justement la bonne façon de gérer le... Oui, c'est peut-être plus du tout du déni à ce moment-là. Ça dépend, oui. Quand, pendant cette semaine de pause, on est là dans une sorte de « non mais m'en parlez pas », est-ce qu'on est encore dans le déni ou est-ce qu'on est dans quelque chose de stratégique? Bon, on va dire un déni stratégique, quoi. Un déni voulu.
Alors très bien, c'est la fin de l'émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, un mot de la fin?
Non, bah sujet utile, c'est super, moi je suis très content de parler de ça.
Oui, comme t'as dit, c'est un sujet quand même très important qui devrait être davantage sensibilisé et ouvert au public justement à la discussion.
Et on espère que ça va aller mieux, que chacun va y mettre du sien pour améliorer la situation.
Eh bien, je vous remercie d'avoir été là avec moi pour parler de ce sujet très important, comme vous dites. Et puis, on se retrouve probablement pour une prochaine émission. Au revoir.
La sélection RJR. Anticipated. You're RJR.
I've been done with all my vices, moralizing and telling my therapist about you. I've been walking in the forest, avoiding crowded rooms. I've been at it, taking shrooms, I've been microdosing. I ain't drinking no more booze, it's a bad influence. Baby got that BBL, thought that ass was curing. She told me to go to hell, I ain't feel no fury. I try to keep my heart pure, but I'm damned if I don't, damned if I do. This night is living with clarity. I just need a little more therapy. Ooh, I just need a little more clarity. Ooh, I just need a little more therapy. Congratulations, back to the basics. Life's what you make it. I know that I'm impatient, manipulative, hard-headed, ain't shit. These diamonds flawless, but my flaws need some work still. Might take a picture, but we ain't picture perfect. I got distracted by the bag, wasn't worth it. Ain't take a look at what's inside. I try to keep my heart pure, but need a little more therapy. Ooh, I just need a little more clarity. Ooh, I just need a little more therapy.
Hier.
Je me sens comme Benjamin Biolay. J'ai des pages à ma frontière, des billets violets. Vas-y, bounce pour moi, baby. Bounce pour moi, baby. Partout avant la fin, le club est rempli de pistolets. J'ai 100 mètres carrés dans lequel on peut s'isoler. Vas-y, bounce pour moi, baby. Bounce pour moi, baby.
Alcool à gogo, pole dance et gogo. Notes dans la poche, wesh à mon gogo. Émergence intime dans Jado au Togo. Logo Croco Crocs, flow anti-bobo. Un petit clic-clic, puis des tas de bratatata. Sa peinture, patapata, les roulements font taratata. Dans le club, c'est la cata, le choix, plata au plata. Ne parle pas d'eau plate, il la jette dans le titi caca.
Viens, bouge de là, c'est mieux. Ici, l'ambiance est trop sérieuse. Je veux voir ton côté mystérieux. Comment tu perds ce poster? Je me sens comme Benjamin Biolay. J'ai des pages à ma frontière, des billets violets. Vas-y, bounce pour moi, baby. Bounce pour moi, baby. Partout avant la fin, le club est rempli de pistolets. J'ai 100 mètres carrés dans lequel on peut s'isoler. Vas-y, bounce pour moi, baby. Bounce pour moi, baby.
Depuis des décennies, ce qu'on recherche, c'est le feng shui. Rolex, sushi, frit, oui, bien. Comme le veut la tradition, salé sera l'addition. À cause de notre addiction, au charme à la séduction.
J'ai de la bœuf dans mon blanc, le tequila dans mon cap. Aucun de nous deux ce soir ne mérite de rentrer sale. Viens, on se casse de l'algame, on s'est carré dans le club. Bounce, 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 comme un joueur, moi j'suis fucked up. Viens, bouge de là, c'est mieux. Ici, l'ambiance est trop sérieuse. J'vais voir ton côté mystérieux. Ouh, comment tu bounce, j'ai postérieur. Viens, on se casse de là, c'est mieux. Ici l'ambiance est trop sérieuse. Je vends ton côté mystérieux. Comment tu bouges postérieur. Je me sens comme Benjamin Biolay. J'ai des pages à ma frontière, des billets violets. Vas-y, bounce pour moi, baby. Bounce pour moi, baby. Partout avant la fin, le club est rempli de pistolets. J'ai 100 mètres carrés dans lequel on peut s'isoler. Vas-y, bounce pour moi, baby. Bounce pour moi, baby.
So, yeah. Yeah.
Y'a ce petit truc qui me rend fou.
La sélection RJR.
Even though I tried, even though I cried, even though I made mistakes, but they were for you. After all I've seen, you treat me badly. I can't wash away your sweetest taboo. And I finally found myself, and I'm tied to the wreckage of you. Terrified that I'm under your spell. Don't wanna lose, and I keep on loving you. I keep on loving you. I keep on loving you. Got all of me in misery, and I keep on loving you.
Even though I tried, even though I cried, even though I broke myself, I broke me for you. And even all those times I let you cut away my wings, now I'm flying back to misunderstood. And I finally found myself, and I'm tied to the wreckage of you. Terrified that I'm under your spell. Don't wanna lose, don't wanna lose, and I keep on loving you. I keep on loving you. I keep on loving you. Got all of me in misery.
Radio Jeune Reims.
Okay, so is it this song or another one?
Les artistes régionaux ont leur radio. RJR,
RMS Crew.
Parce qu'elle est belle quand elle bouge sur la piste. On dirait qu'elle a fait ça depuis trop longtemps et qu'elle a jamais été triste. Putain, je te jure, ce qu'elle brille quand elle danse. Je vois bien que tout le monde n'a que Dieu que pour elle. Elle s'évade, elle a de la chance et on veut tous faire pareil. C'est intemporel. Je pourrais rester des heures à la voir s'agiter sous les lumières. Bien joué, putain. Elle a bien caché ses humeurs sous ses beaux airs de femme heureuse, je le vois. C'est lunaire un peu. On croirait qu'elle est même pas si peureuse que ça. Elle m'entraîne à fond et m'hypnotise. Et grâce à elle, j'agite ma tête sur le tempo. T'aimes pas? C'est pas grave. Je serai le seul à danser un tango imaginaire avec. Je pourrais bien même ne plus dormir, pourvu qu'elle danse encore.
Oh, elle danse encore. Et mes petits yeux se perdent dans son regard, elle bat son plein. Seule dans sa bulle, elle danse encore, se sent bien dans son corps. Ses habits flottent et elle évite tous les autres qui ne dansent plus. Elle pense plus, elle danse encore, elle pleure plus. Elle danse à fond pendant que son cœur s'effondre, oublie tous ses problèmes. Moi, j'aimerais vraiment l'aider, mais j'ai que mes poèmes comme main tendue. Et elle alterne de trois mouvements inattendus, à quelques yeux en vue. Un sourire la possède, mais je crois qu'elle se rend compte que c'est possible d'être heureuse. Elle veut danser bien plus souvent, mais elle est bien trop heureuse. Alors une larme coule, mais la valse ne s'arrête pas de suite. Elle ne choisit pas la fuite. Ce soir elle s'abandonne et son rythme la garde encore. Elle danse encore.
Ok, ça change de disque. Elle tend les siennes pour prendre ma main. Je me dois d'intervenir. Je me perds dans le vide. Ses yeux un peu humides comme son front transpirant de la danse d'avant. Elle me prend par la taille comme pour se reposer. Elle est essoufflée. Moi je galère juste à poser un pied devant l'autre. Je passe pour un piètre danseur, mais je m'en fous. J'oublie tout autour. Me jette pas la pierre. Après tout, tu ferais la même chose à ma place. Pense plus à rien. Y'a comme un truc aérien entre nous. Un coup de poing qu'aurait brisé la glace. J'en perds mes flots, mes mots et même mes moyens. Il faut que j'en profite, on refera sans doute plus jamais cette parade. De peur qu'on s'aime que moins bien. On sème des graines, on saigne en se coupant pour prendre leurs fruits. On se baigne en coulant dans le fond de notre lit. On oublie, c'est toujours ça le schéma. Ça y est, je veux plus que le son s'arrête, je me sens bien caché là. Sa tête contre mon cœur, elle me serre fort. Et c'est sûr, je fais pareil avec mes poings. Si vous voulez me la prendre, non, ne me l'arrachez pas. Je veux plus que le son s'arrête, non, j'y pense sans arrêt.
RJR.
Cada día que me enamoro. Del cuarto, de la panadera, de la que vende los billetes en el metro, de la barrendera, cada día que me enamoro.
Tú la vecina del patio, yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba, por ti yo me descabrizaría. Viva tú, viva tú, viva tú, la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú, la Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú, viva tú, la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú, la Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina de arriba, me alegro cuando te veo.
Cada día que me enamoro. Esto me representa, ¿es así? Pásame el WAP que me hago el vinilo. Esto me representa, cada día que me enamoro.
Viva tú, viva tú,
viva tú,
viva tú, la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú,
viva tú.
RJR.
Radio Jeune Reims.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi. Le pire c'est toi et moi.
Et si tu cherches encore ma voix, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi.
RJR.
RJR. la sélection RJR.
Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Ton visage me dit quelque chose. Je t'ai déjà croisé dans la ville. Je vais pas te mentir, j'ai pas maté tes choses. T'es la plus fraîche si tu veux mon avis. Vas-y, prends mon tel. Quand tu veux t'appelles, je serai à l'hôtel. Dans un nuage de fumée, je te vois derrière les vitres teintées. Ce soir, je vais quitter un thé. Angela, appelle-moi ce soir. Est-ce que ça te dérange si je conduis vite ou est-ce que t'aimes le danger? N'aie pas peur, non, non, j'ai pas de cœur, ouais. Mais je prendrai soin de toi comme la recette d'un braqueur, ouais, ouais. Atikio, pas homme de souk, mais homme de souk. Je fais des tas de billets, viens m'en prendre un petit peu, tu vois le Porsche. Je suis en dessous, je suis dans le zoo. Mais t'es la seule que je laisserai me descendre à petit feu. Angela, appelle-moi ce soir.
Jeune Reims.
Yeah.
racing when you come around. We're burning through the city.
RJR, RJR. Artistes régionaux ont leur radio. RJR.
Julien m'a dit.
Jeunes gens, si vous croyez l'adage qui dit qu'à mon âge on est impotent, j'apporte en ma personne un témoignage des plus éloquents. Depuis quand, passé 80 ans, on est condamné à courir après ses souvenirs au creux d'un vivant. D'argent, je m'en viens démolir vos boniments. Boxer vos dires de garnement, ma satire vous va comme un gant. Soyez vigilants, car c'est un fait avéré. Je suis la championne des vétérans, une travailleuse invétérée. La virtuose du coup de balle et balle et pas, c'est moi qui fais balle. Est-ce pour tuer le temps, je tente à faire pour m'occuper. Une chemise à repriser, un scooter à réparer, un missile à détourner. T'inquiète, mémé va gérer. Mémé, à moi, c'est mémé, 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 tes mains en l'air. À moi, c'est aimer, 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 aimer tes mains en l'air. Au potager, j'appose mon style, mes potagers n'ont pas bonne mine. Je suis comme l'abeille qui butine, mes mains de travailleuse habiles sont un peu esquintées. D'ailleurs, est-ce qu'Internet est branché? Faut que je masse sur la toile si un remède peut les soulager. Le troisième âge est un peu bousculé à l'idée de voir mes doigts et leur arthrose courir sur le clavier. Je surfe, comme disent les jeunes. Si tu ne me trouves pas fun, j'enlève mon sonotone, viens, on bastonne à coups de microphone. J'ai des lyrics délirants, vécu de 82 ans, que je raconte à mes petits-enfants.
les anecdotes sur Mitterrand. Reste qu'elle et Jeanne Calment ne sont pas sûrs que fin d'avant. À moi, c'est aimer, 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 aimer tes mains en l'air. À moi, c'est aimer, 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 aimer tes mains en l'air. J'ai l'instinct maternel et c'est un véritable aimant. Ne laisse pas traîner ton fils, il va me kiffer, c'est évident. Les babillés, les biberons des bébés, j'en suis fait. Ah, quelle belle ribambelle de bambes à tous baba de moi. Petits et grands me prennent en mascotte. Dans mon clan, je suis respecté. Tu viens mesurer ma cote avec ta tribu d'années. Rien ne sert de courir, mon petit père.
Parfois, on est aussi amer dans mon ministère.
Prénom de nom autour de la table que des caractères. Du vrai bourru au susceptible sortait à couvert. Une fois même de l'entrée, j'ai déjà vu des verres voler. Rien qui ne sera pistole, moi j'ai la colle quand la glace est brisée. Mon nom à moi c'est mémé, aimé, aimé. Aimez-vous les uns les autres, alors seulement les vaches seront bien gardées.
À moi c'est mémé, aimé, aimé, aimé tes mains en l'air. À moi.